Alors, on va se courber maintenant dans la prière avant d'aller au livre des Actes et voir ce que Dieu a pour nous ce matin. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous avons une joie. Et cette joie, Seigneur, elle n'est pas fabriquée par des choses artificielles. Elle est présente dans nos cœurs parce que nous avons Jésus. Jésus qui est venu faire sa résidence en nous et qui est venu nous donner un cœur nouveau. Un esprit vivant, vivifiant, qui habite en nous, Seigneur. Et nous voulons te louer de ce que tu as une relation personnelle avec nous et que malgré des fois où notre âme est quand même morose parce que nous sommes aussi des êtres humains et on vit des situations des fois difficiles, même on est déçu parfois par nous-mêmes parce qu'on a trébuché, parce qu'on n'a pas pu saisir des occasions que tu nous as présentées pour parler de toi. Parce qu'on vit des échecs, on a des faiblesses. Mais Seigneur, lorsqu'on se tourne vers toi et lorsque tout à coup on te prie, on crie même à toi comme on a chanté ce matin, Seigneur, tu es tellement prompt à venir nous secourir. Et tu fais encore du bien à notre âme et tu nous restaures. Et là, on peut chanter à nouveau des cantiques de joie et de délivrance parce qu'on sait que l'Éternel est vivant et que Jésus est un sauveur aimant qui nous connaît. Et qui nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Merci Seigneur notre Dieu pour de telles promesses. Et merci pour ta parole, qui est une source incroyable de sagesse, de nourriture, de l'âme, et qui nous guide, qui nous aide à prendre des décisions, qui nous aide à régler des questions pratiques de tous les jours dans nos vies. C'est ça qu'on a découvert en toi, Seigneur. Et c'est dans ce chemin-là qu'on a accepté de marcher, et on est heureux d'être avec toi. Merci pour l'Église que tu nous donnes d'être ensemble, réunis, des frères et des sœurs. Ou comme Jacob disait dans le reportage, on est tous ici, on est égaux, puis on s'écoute les uns les autres. Et c'est ça qu'on aime. On aime, Seigneur, être autour de ta personne, rassemblés, en train d'écouter ta voix et en train de se laisser aimer par toi. Seigneur, bénis ce matin, bénis ce temps ensemble, bénis l'école du dimanche pendant qu'ils sont en train de regarder ta parole, chacun à leur niveau. Bénis les moniteurs, les monitrices, les aides, moniteurs, monitrices qui sont là pour justement avoir un tel ministère dans la vie de nos enfants. On te prie aussi pour les deux classes d'adultes, pour des gens qui se posent des questions sur la Bible, qui cheminent, Seigneur, avec toi. Et tu travailles dans les cœurs. On entend des témoignages de gens justement qui sont travaillés par ta parole parce que là, tout à coup, ils la comprennent. Et ils veulent eux aussi cheminer avec toi. Et on veut te louer pour les moniteurs qui ont à cœur d'investir de leur temps comme ça. Alors merci Seigneur notre Dieu pour tous ceux et celles qui s'impliquent, qui veulent mettre leur talent, leur don, leur temps, leurs ressources à ton service. C'est ça l'Église, c'est ça ton Église. Et nous sommes heureux Seigneur de t'appartenir. Alors nous nous tournons vers toi ce matin et on s'attend à toi. Dans le nom précieux de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le livre des Actes depuis quelques mois et on chemine ensemble. Et là, on est justement dans la section qui est la progression de l'Église, qui couvre du chapitre 3 aller jusqu'au début du chapitre 8. Vous savez, l'Écriture enseigne un paradoxe. Qui est que la bénédiction que Dieu donne généreusement à son peuple peut aussi devenir, malheureusement, une malédiction. Avez-vous remarqué ça? Comment? Comment est-ce qu'une chose qui a l'intention de me faire du bien peut finalement être un piège dans ma vie et me faire du mal? Comment est-ce possible? Bien, tout simplement, quand la bénédiction, ou on pourrait même dire quand les bénédictions de Dieu nous montent à la tête. Les bénédictions de Dieu peuvent malheureusement nous intoxiquer. Pensons à l'exemple des Israélites. lorsqu'ils ont pris possession de la terre promise, Dieu les a avertis d'avance. Là, il dit, regardez bien là, vous avez été dans la privation pendant de nombreuses années, des épreuves, vous n'aviez pas un toit sous votre tête, vous avez eu de la misère, vous avez eu chaud, vous avez eu faim, vous vous êtes gratté la tête bien souvent, savoir qu'est-ce qui allait pour arriver, comment est-ce que Dieu allait intervenir pour vous délivrer. Puis là, vous allez rentrer en possession là de la terre promise. Vous allez avoir des maisons que vous n'avez jamais travaillé pour les construire. Vous allez avoir des possessions, des choses que vous n'avez rien fait pour les obtenir. Je vais vous les donner. Puis là, Dieu leur dit la chose suivante. Prenez garde à ce que vous n'oubliez l'Éternel. Prenez garde à ce que toutes ces bénédictions ne vous montent à la tête. Et que là, un jour, vous allez dire, c'est grâce à mes mains, c'est grâce à mon travail, c'est grâce à ma sagesse, c'est grâce au fait que je suis wise, j'ai fait attention, j'ai fait des bons coups, et que là, maintenant, j'ai toutes ces choses. Que là, vous allez oublier que tout ça vient de l'Éternel. Et vous allez oublier l'Éternel. Est-ce que c'est arrivé? Malheureusement, oui. C'était un avertissement, puis en même temps une prophétie que Dieu est en train de leur donner. Et ils ont oublié l'Éternel. Leur cœur s'est refroidi et ils ont abandonné l'Éternel. Et ça, c'est justement un dilemme de Dieu. Une fois, quelqu'un m'a dit ça. Et ça m'a resté dans ma tête. C'est un dilemme de Dieu. Comment puis-je faire du bien à mon peuple, à mon enfant, sans que cela devienne un piège dans sa vie? Imaginez-vous. Autrement dit, là, moi je crois que Dieu voudrait nous faire bien plus de bien qu'il nous en fait souvent. Parce qu'il y a ce dilemme-là. Jusqu'où je peux les en donner? Sans qu'à un moment donné, ils deviennent autosuffisants et ils n'ont plus besoin de moi. Parce que là, ils se disent, j'ai tout ce qu'il faut. Puis qu'en plus, ils ont l'impression que c'est grâce à eux qu'ils ont tout ça. Et vous savez, en Amérique du Nord, malheureusement, pourquoi l'Évangile est si peu convaincant dans le cœur des gens? Et que ceux qui sont chrétiens ont si peu parfois de puissance spirituelle dans leur vie, eh bien, c'est lié en grande partie à l'abondance dans laquelle on est. Donc, on peut pas sortir de ça. Et moi inclus, là. Comprenez? Et ça, c'est triste. C'est triste que de constater une telle situation. Maintenant, si je vous disais, qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous les épreuves ou les bénédictions? Parce que, honnêtement, souvent dans nos vies, dans la pratique, qu'est-ce qui va nous avoir apporté les plus grands pas en avant dans notre marche avec Dieu? Est-ce que c'est des bénédictions qu'on a reçues ou est-ce que c'est des épreuves que Dieu a permis? C'est des épreuves. N'est-ce pas vrai? Moi, je sais que je suis dans le pastorat parce que j'ai été premièrement dans la prison. Et c'est dans la prison que Dieu m'a appelé au pastorat. C'est là qu'il y a eu mon attention. Et je sais qu'il n'y a pas un hasard ici, là. Dieu est venu me chercher à un moment où il y avait mon attention. Et que là, je connaissais ma dépendance de lui. Combien sont venus au Seigneur à cause d'une épreuve? Parce qu'ils étaient dépassés par les événements. Une des plus grandes bénédictions dans ma vie, c'est quand que je me suis fait construire une maison à Québec, puis qu'il y a eu des problèmes dans cette maison-là, comme jamais je pouvais m'imaginer qu'il pouvait y avoir des problèmes dans une maison neuve. Puis ça s'est tout arrivé à moi. Un bon gars comme moi. Vous comprenez? Ou là, je vous le dis, devant Dieu, et Dieu m'est témoin, là. Il y en avait d'autres qui faisaient qu'on se construisait dans le même quartier où j'étais, puis faisaient tout ça en dessous de la table. puis moi, je faisais « by the book ». Comprenez? Moi, j'avais à cœur d'honorer l'Éternel dans tout ce que je faisais. J'ai dit, il n'y a pas rien qui va se faire dans ma maison qui ne sera pas selon les règles de l'art. Et en cours de route, le constructeur qui n'était pas chrétien, il a essayé de m'en passer, puis il a essayé d'en insérer, puis à un moment donné, j'ai même été obligé de prendre sur moi des dépenses, puis des choses que normalement c'est lui qui aurait faites, parce que là, un autre fournisseur, il me dit, mais sais-tu, c'est du travail au noir, ça. Il dit, non, c'est impossible. J'y ai dit que. Il dit, informe-toi, tu vas voir, c'est du travail au noir. Je m'informe, c'était du travail au noir. Là, il dit, comment se fait que il dit, moi, ça marche pas, je peux pas faire ça. Fait que ma maison, là, je l'ai faite devant l'Éternel avec une conscience pure, puis j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes, je ne comprenais rien. Pourquoi j'ai tant de problèmes que ça? Jusqu'à temps que Dieu me rencontre. Et ça a été une des plus grandes bénédictions dans ma vie. Une des plus grandes bénédictions, ça a été l'épreuve, le brisement. Moi, Benoît Laverne, je sais comment faire les choses. J'ai fait ça, puis je sais à quelle porte cogner, puis j'ai de la détermination, puis tu vas voir, je vais trouver des réponses, puis je vais y aller, puis à un moment donné, il n'y a plus de réponse. À un moment donné, il n'y a plus de porte à cogner. À un moment donné, tu es devant des problèmes, puis ça te dépasse. Puis là, j'ai tombé sous mes genoux, puis là, j'ai dit, Seigneur, tiens, là, moi, rencontre-moi. OK? La maison, je te la donne, regarde, fais ce que tu veux avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je me suis emmené ici, moi, je n'étais pas sûr que j'étais capable de la vendre, cette maison-là, parce qu'il y avait tellement de problèmes dedans. Puis il fallait que je sois honnête encore là. Je ne pouvais pas dire, oh oui, c'est une belle maison. Le drain gèle en haut. Il y a de la givre dans le garde-robe à l'entrée. C'est tout givré l'hiver. Il y a de l'air qui rentre de partout. Oh, on est au frais l'hiver, c'est pas croyable. Hey, on a beau chauffer, mais on est toujours au frais. C'est incroyable, c'est merveilleux. C'est de toute beauté. Alors, il fallait que je mette tout ça sur la table, puis je l'ai vendu la maison, malgré tout ça. Incroyable, hein? T'as, moi, j'en revenais pas. Mais l'Éternel. Quand on a eu notre premier enfant, on avait fait ça comme il faut. Tu sais? Non. Ouais. Après l'avoir faite. Hein? Aïe. Alors, on a fait les cours prénataux, puis faire attention à la nourriture, faire attention à ci, à ça. Ma femme ne fumait pas, ma tête, c'était tout beau comme il faut. Là, il y a une autre madame qui rentre en même temps que nous autres. Elle fumait dans ce temps-là, elle pouvait fumer dans la chambre, tout ça. Fumait, elle avait un bras cassé, elle sacrait, elle prenait le nom de Dieu en vain, tout ça. Puis, pouf, le petit bébé est venu tout seul. Après 1h30, 2h après qu'elle était à la toilette, tout, tu sais. Ma femme, des heures, elle passait proche de mourir, elle est venue tout enflée parce qu'elle faisait une préclampsie. Puis, moi, j'étais là, Dieu, t'es où? Tu fais quoi? C'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait? Moi, j'étais un homme bien. Vous comprenez? Ma femme, elle souffre, puis là, moi, j'étais démuni. Mais encore là, Dieu m'a rencontré. Puis je me souviens encore du verset quand j'ai lu, puis que là, j'ai pleuré. Après, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que Dieu, il dit, c'est quoi je te dois? Est-ce que ta femme est en vie? Est-ce que ton enfant est en vie? Celui qui m'a glorifié, c'est celui qui m'offre des actions de grâce pour sacrifice. Et là, j'ai commencé à offrir des actions de grâce à Dieu. C'est marqué dans ma vie, des épreuves. On a combien d'entre nous préfèrent les épreuves aux bénédictions? Quand les bénédictions sont souvent un piège à nos vies pour nous refroidir spirituellement, nous éloigner de Dieu, puis que les épreuves sont souvent l'inverse, c'est ce qui nous ramène à Dieu, à de meilleures dispositions de cœur, puis à une proximité de Dieu. Pourquoi ne demandons-nous pas à Dieu, « Seigneur, y a-t-il une épreuve qui serait bonne pour moi cette année? Y a-t-il quelque chose que tu peux m'envoyer, là, tu sais, qui va me faire du bien, là? Ça va me brasser, là, tu sais? Puis ça va briser mon orgueil, là, tu sais? Ça va briser cette tendance que j'ai d'être sage à mes propres yeux, puis de savoir, moi, j'ai les réponses, j'ai des outils, j'ai tout ce qu'il faut, là, tu sais, puis je suis capable d'affronter la vie. Mais Seigneur, ça, j'ai pas besoin autant de ça que j'ai besoin de te rencontrer, toi, puis j'aimerais ça te rencontrer cette année. Peux-tu m'envoyer quelque chose? Hein? Moi, est-ce qu'il y en a qui veulent faire ça? Cette année? Des volontaires? On va y penser, hein? Ah, il y a une main qui s'est levée, il y a une main qui s'est levée. Savez-vous ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on a peur. Hein? On a peur parce qu'on prend Dieu au sérieux, là. On a peur. Mais vous savez, il y a aussi deux facteurs qui, dans l'Église, puis dans notre vie aussi, on peut l'appliquer, là, mais dans l'Église, et ce qu'on voit ce matin dans le chapitre qu'on va examiner, qui peuvent justement être un piège. Et ça semble être paradoxal. Le premier, ça peut être la décroissance. Et le deuxième, ça peut être la croissance. La croissance dans une église peut être un facteur énorme de tension et de difficulté. Tout comme la décroissance. Quand que l'on commence à vendre les meubles, hein, on commence à tout pour essayer de... Puis que là, ça va pas bien, comme on dit en bon québécois, c'est des facteurs de stress. C'est quoi qui se passe? Puis là, on commence à vivre toutes sortes de situations. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Dieu veut générer la croissance, mais que la croissance, justement, suscite des défis importants. Et dans le livre des Actes, par exemple, on voit que l'Église de Jérusalem connaît, justement, une croissance fulgurante. Imaginez-vous, ils ont passé de 120, où ils étaient ensemble, et ils sont montés à combien? En une journée. Hein? Le texte biblique dans Actes 2 nous dit... Et là, il comptait seulement les hommes, nous dit que 3000 nouvelles personnes, hommes, se sont convertis. Et là, ils ont été baptisés, puis ils ont joint l'Église. Donc, on sait un minimum de 3000 d'une shot. Et là, beaucoup disent, en rajoutant les femmes et naturellement les enfants qui sont venus avec ça, donc, comme Église, là, ça a pris tout à coup une croissance phénoménale. Ça, c'est spécial. Hein? Ça, c'est spécial. Ensuite, un peu plus loin, au chapitre 4, on voit que là, ça dit que le nombre est monté à combien? 5000. Ça, c'est pas longtemps après. Là, on parle d'une période là de 2 ans, aller du chapitre 2, aller jusqu'au chapitre 6, puis même jusqu'au chapitre 8. C'est à peu près 2 ans d'existence d'Église, là, ce qui est très court. Et ensuite, on voit que ça continue à grandir au chapitre 5 et au chapitre 6. Et là, probablement, l'estimation est faite autour de 8000 hommes, à part, encore là, des femmes et des enfants. Ce qui voudrait dire que l'Église était environ d'une vingtaine de mille à ce moment-là. Ce qui est énorme, énorme. Ça, dans les termes aujourd'hui, là, ils disent ça, c'est une dénomination. Une Église rendue à cette grandeur-là, c'est plus une Église, c'est une dénomination. C'est-à-dire, ça regroupe des centaines d'Églises, si on fait la moyenne et ainsi de suite, là. C'est énorme comme dynamique. Quelle belle grosse bénédiction pour les apôtres, n'est-ce pas? La croissance, c'est fantastique, c'est agréable, c'est merveilleux. Mais une croissance à ce rythme-là, c'est aussi quel beau gros problème. C'est tout un défi. Alors, qu'est-ce qui peut freiner la croissance? Et on a commencé à voir ça dans le livre des Actes. Premièrement, l'opposition. Et ça, c'était dans le chapitre 4. Alors, l'opposition, ce que ça va faire, c'est que ça peut décourager. Quand on commence à se faire brasser par des gens qui nous contestent, qui sont pas d'accord et qui mettent de la pression, puis c'est ça qu'on voit. Alors là, il y avait le potentiel que l'Église soit découragée, qu'ils aient peur, puis que là, ça vienne les intimider. OK? Ensuite, on voit la corruption. Ça, c'était au chapitre 5. La corruption dans l'Église peut venir justement emmener toutes sortes de malfonctionnements. Parce que là, plus le péché s'éparpille un peu partout et que là, on, comme on dit souvent, le monde rentre à ce moment-là dans l'Église, là, à ce moment, ça vient tout changer. Alors, donc, ça, c'était un potentiel réel que si la corruption venait un peu comme une pomme pourrite qu'on dit dans un sac ou une patate pourrite dans un sac de patates, qu'est-ce que ça fait à un moment donné? Ça peut contaminer tout le reste, OK? Le potentiel est là. Et là, au chapitre 6, ce qu'on voit, c'est les tensions. Parce que là, les tensions qui sont en train de surgir ici, étant donné le nombre croissant de chrétiens, emmenaient du mécontentement. Et par la suite, nous, on va se concentrer ce matin sur chapitre 6, mais par la suite, quand on continue, là, on voit que c'est la persécution qui se rajoute. Donc, on voit que le diable essaie, lui, de contrer ce que Dieu est en train de faire. Par l'opposition venant des pharisiens et tout ça, par la corruption qui était de l'intérieur, par les tensions encore là qui sont de l'intérieur, qui sont à cause de la croissance, et aussi ensuite par la persécution qui, là, prenait même, disons, une intensité beaucoup plus grande, parce que là, on voit même que le meurtre d'Étienne va suivre par la suite, ce qui était une opposition, on pourrait dire, accrue, et qui allait même jusqu'à poser des gestes comme celui qui a été fait envers Étienne. Donc, de telles ruses tactiques du diable, qui sont comme des flèches enflammées, sont faites dans le but de détruire l'œuvre de Dieu. Alors, où Dieu est à l'œuvre, naturellement, Satan est aussi à l'œuvre. Par contre, Dieu a prévenu le coup, et là, il y a les anticorps de l'Église. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire pour contrer chacune de ces tactiques que le diable essaie d'utiliser pour freiner la croissance, détruire l'œuvre de Dieu? Alors, pour le premier qu'on a vu tantôt, qui était l'opposition, ce qu'on voit que l'Église a fait, c'est qu'elle s'est tournée vers Dieu. Et là, c'était la dépendance envers Dieu et l'exercice de la piété. Là, l'Église, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a pris en considération ce qui est en train d'arriver contre elle. Et là, ils se sont réunis. Ils ont fait des réunions de prière. Et là, ils ont intercédé auprès de Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu puis ils ont demandé à Dieu d'intervenir. Et là, ça dit qu'ils ont été remplis de l'Esprit. Et là, ils ont été pleins d'assurance. Puis là, ils ont ouvert la bouche encore plus. Ils ont dit, on va perdre notre vie si c'est nécessaire, mais on va proclamer l'Évangile malgré les menaces qui sont faites contre nous. Alors ça a été l'anticorps que l'Église a utilisé pour ne pas justement tomber dans ce piège-là. Contre la corruption, l'anticorps que Dieu a donné à son Église, c'est la pureté et le recours à des mesures disciplinaires. Chapitre 5, ils n'ont pas lésiné avec le pot. Et Pierre ici est intervenu, et là Dieu est intervenu aussi d'une manière assez spectaculaire. Et là, ça a été le décès d'Ananias et Saphira devant toute l'Église, étant donné que le péché était dénoncé. Mais ça, c'était de préserver la pureté de l'Église. Il ne faut pas que le péché vienne maintenant corrompre l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que l'hypocrisie rentre dans l'Église. Parce que là, si c'est des visages à deux faces, si là, on dit une chose quand on est à l'Église, puis quand on sort, on en dit une autre, si on vit une chose quand on est à l'Église, puis qu'on en vit une autre quand on est en dehors de l'Église, ça va freiner le témoignage de Dieu, ça va freiner la puissance de l'Évangile, parce que les gens sont pas des tatas, les gens, ils savent si c'est vrai ou si c'est juste de la frime. Si, autrement dit, j'ai rien de mieux à offrir aux gens que de simplement leur dire « voici ce que Dieu peut faire », mais que dans ma vie quotidienne, ça fait absolument pas aucune différence, que je vis comme eux, que je suis aussi corrompu qu'eux, que je suis aussi de mauvais caractère qu'eux, que je parle en mal autant qu'eux, et que je suis un chialeux autant qu'eux, et que dans le fond, la présence de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie parce que il est tout simplement pas en train de se manifester dans ma vie, ça marche pas. Le Seigneur ne fonctionnera pas à travers ça. Il sera pas en train de rayonner à travers nos vies. C'est impossible. Et naturellement, à travers l'Église. Et ça va miner l'interaction que le Seigneur peut avoir avec son Église et à travers son Église. Et ça, c'est dommage. Donc, la pureté et les mesures disciplinaires qui sont vraiment l'anticorps contre la corruption. Et dans le chapitre 6, ce qu'on voit, c'est que c'est l'organisation des ministères en fonction des priorités et des besoins qui va être l'anticorps. Là, ici, ils sont aux prises avec une situation nouvelle qu'ils n'ont jamais vécue auparavant. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans Acte 2, naturellement, ils étaient ensemble. Et là, on voit qu'il y a eu une organisation immédiate. Et là, c'est nommé toutes les choses qu'ils faisaient ensemble. L'enseignement, ils se consacraient à ça. Ils se consacraient à la communion fraternelle. Ça, c'était important. Ils étaient ensemble dans le temple, puis ils étaient aussi dans les maisons. Donc là, ils ont organisé en fonction du nombre qui était. Puis on dit, il y a des choses qu'on peut faire ensemble au temple, mais il y en a d'autres qu'il va falloir faire dans les maisons. Donc, il fallait absolument qu'ils s'organisent pour que tout le monde puisse avoir un endroit pour aller se rencontrer aussi. Et là, ils faisaient la fraction du pain quand ils étaient ensemble comme ça dans les maisons. Il y avait les prières. Vous voyez, il y avait l'évangélisation, le fait qu'ils rendaient un témoignage autour d'eux. Ils partageaient avec les différents besoins qu'il y avait. Donc, s'il y en avait qui n'avaient pas de nourriture, ben là, d'autres apportaient de la nourriture, vendaient des choses. Et puis là, ils amenaient ça aux apôtres. Donc, il y avait une organisation qui était là. Ça prenait une organisation pour prendre soin de tous les besoins et de toutes les personnes qui étaient là, autant au niveau des besoins spirituels que des besoins personnels, que des besoins conjugaux, familiales et même monétaires et humains. Vous voyez? Donc, il y avait une organisation qui était là. Et qui s'est faite en fonction de la grandeur, des besoins et des ministères qui étaient nécessaires. Et un peu plus tard, dans le chapitre 7, on voit que la façon de répondre à la persécution, ici, c'est la défense de la foi et la passion pour Dieu. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde particulièrement, c'est le chapitre 6, où là, il y a un principe important et l'aspect de définir nos priorités. OK? C'est ça ici ce matin que j'aimerais qu'on puisse regarder. Et là, je vais lire le chapitre 6, le verset 1 à 7, pour qu'on puisse avoir justement le contexte du récit. Alors, acte 6, les versets 1 à 7. Est-ce que vous êtes capable de lire à votre place? On va allumer des lumières un petit peu. Ça va? OK. Alors, acte 6, 1 à 7. Je commence. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque, qui étaient des hellénistes, et ceux qui étaient nés en Palestine, qu'on appelait les Hébreux. Alors, les deux groupes sont des juifs, mais un d'une culture grecque, et qui souvent était né en dehors de Jérusalem et de la Palestine, et l'autre groupe qui était né à Jérusalem et en Palestine et qui était les Hébreux, qui parlaient aussi l'hébreu en une certaine partie en tout cas. Les premiers ne se plaignaient, c'est-à-dire les hellénistes, les juifs de culture grecque, se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Voyez-vous, ici, là, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Donc, je continue, verset 2. « Alors les douze apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, donc ils ont eu comme une réunion de membres, une réunion d'église, « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions alimentaires et monétaires. » Donc là, ils ont réfléchi entre ces versets-là, vous comprenez, là? Ils ont pris compte de la situation et là, ils ont dit « Voici ce qui se passe. » Et là, il faut qu'on réorganise l'Église en fonction d'une nouvelle réalité. Mais en faisant ça, ils se sont arrêtés et là, ils ont dit, qui va le faire et pourquoi? Et c'est en fin de compte ce qu'ils ont fait. Ils ont premièrement défini leurs priorités. Ça, c'est une des choses qui ressort ici. Verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra à nous de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Et là, regardez au verset 5, cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent alors Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. Regardez au verset 7. Ils ont appliqué une bonne solution à un vrai problème en définissant leurs priorités, regardez au verset 7, la parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait de plus en plus à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. De nombreux sacrificateurs obéissaient aussi à la foi. Alors, qu'est-ce qui explique maintenant l'émergence de cette crise à Jérusalem, dans l'Église de Jérusalem? Premièrement, il y avait la croissance fulgurante de l'Église. Je pense que je l'ai, mais ici, le principe avant. L'organisation des ministères doit toujours refléter les priorités de Dieu et répondre aux besoins de l'Église et à ce que l'Esprit est déjà en train de faire. Ça ici, c'est une bonne façon d'organiser les ministères. Donc, ça tient compte des priorités et ça tient compte aussi des besoins et ça tient compte aussi de ce que l'Esprit est déjà en train de faire. Voyez? Mais ici, les raisons de la crise. La première raison, c'est la croissance fulgurante et le besoin d'une plus grande organisation, comme je vous disais tantôt. Donc ici, l'Église, nécessairement, doit s'organiser en conséquence des besoins qui sont en train de se développer. Deuxièmement, c'est la présence d'inégalités et de favoritisme dans la distribution. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est très clairement mentionné ici. Là, il y avait un problème entre deux groupes de personnes. D'un côté, on a des chrétiens qui sont d'origine... Non, les deux sont d'origine juive. Mais avec, voilà, les hellénistes qui ont des... Comment je dirais ça? Des imperfections. OK? Pour le dire d'une manière dans la pensée des Juifs qui n'avaient pas d'imperfections. Les Juifs qui ont des imperfections, c'est ils ont une influence grecque. OK? Ils sont nés dans la culture grecque, puis ont été élevés dans la culture grecque, mais ils sont des Juifs. On les appelait les hellénistes. Et il y avait les Hébreux. Les Hébreux, eux autres, ils n'ont pas d'imperfections parce qu'ils n'ont pas été élevés dans la culture grecque. Ils ont resté plus près de la culture hébraïque. Alors, là, il y a ces deux groupes de chrétiens dans l'Église. Parce qu'il ne faut pas oublier là, qu'on est dans Actes 6. L'Évangile n'a pas été encore plus loin que Jérusalem, là. Comprenez? Là, la seule chose, c'est que lors de la Pentecôte, il y a plein de Juifs d'un peu partout dans le monde de l'époque qui sont venus à Jérusalem. Et donc, qui n'habitaient pas à Jérusalem, qui avaient justement la culture grecque de là où ils venaient, puis là, ils s'étaient venus à Jérusalem, puis ils ont décidé de rester à Jérusalem parce que là, wow, Dieu vient de se manifester, l'Église est là, il y a beaucoup de monde, et là, ils veulent être ensemble pour proclamer l'Évangile et Jésus et ce qu'ils viennent de comprendre, puis ils veulent bénéficier aussi de l'enseignement des apôtres, après tout, tu sais. Les apôtres sont là, là. Alors là, c'est pour ça qu'on a cette réalité-là, mais c'est tous des Juifs. Ça, c'est bien important. Il peut y en avoir quelques-uns, comme ici, il y en a même un parmi les sept qui est nommé, mais il s'était converti au judaïsme avant de devenir chrétien. Comprenez? On appelait ça un prosélyte. Alors, quelqu'un qui n'était pas juif, se convertit au judaïsme, c'est un prosélyte. Mais ce n'est pas un juif. Ça, c'est clair. Donc, la majorité qui sont ici, là, pour dire presque la totalité, parce qu'il y a quelques exceptions, mais la grande majorité, c'est tous des juifs. Mais il y a des imperfections, puis il y a des perfections. Comprenez? Et c'était vraiment vu comme ça. Donc, c'est pour ça ici que il y a des inégalités, puis du favoritisme dans la distribution. Et c'est ça qu'à un moment donné, les hellénistes chrétiens viennent, puis là, ils disent aux apôtres, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce que, regarde, les veuves hébreux, ils ont 8 beaux gros sacs de paniers de nourriture. Les veuves hellénistes, ils en ont 4. Puis ça, c'est s'il en reste. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'était ça qui soulevait le problème et les tensions qui existaient ici. Et la troisième qui va aussi avec la deuxième, c'est qu'il y avait la présence de préjugés et d'une attitude négative envers un groupe de chrétiens helléniste. Et tout simplement pour cette raison que je viens de vous dire, c'est un peu comme si on dit, il y a des Québécois pure laine, puis il y a les autres. Hein? Ou encore si on dit, il y a les francophones qui vivent au Québec, et puis il y a les autres. Comprenez? Et si en plus on rajoute à ça, je ne sais pas si vous avez vu le film de Maurice Richard, là, sur la vie de Maurice Richard, je l'ai vu, là, il a passé, il ne fait pas tellement longtemps, je l'ai écouté, et puis il dit, aïe, c'est pas drôle ça. Là, il y avait des préjugés, là. Des préjugés contre les francophones dans le hockey, on s'entend? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, cette série-là? Quelques-uns? C'est juste pour vous montrer un peu des préjugés, là. On est dans la chambre du Canadien de Montréal, à cette époque-là, de Maurice Richard. La majorité des joueurs sont francophones, puis ils n'ont pas le droit de parler en français dans la chambre, même s'ils sont juste des francophones entre eux autres. Spécial. C'est assez spécial. Hein? Alors ça, c'est des préjugés. Et des préjugés, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène des actions. Hein? On agit en fonction des pensées qu'on a, des attitudes négatives qu'on a envers certaines personnes. Et souvent, on les traite différemment. Et on crée des injustices. Alors, les accommodements raisonnables, là, puis les tensions que ça crée, même si dans Acte 6, ça existait. Imaginez-vous, c'est pas d'hier, là. Comprenez? Et là, quand on est même tous des chrétiens, puis que là, on commencerait à dire, ah ben lui, OK, on peut lui donner ça, mais lui, il n'est pas vraiment méritant pour toutes sortes de raisons, on aurait un problème. Et c'est ça ici qui était le problème. Comprenez? Et là, il y avait effectivement des tensions. Et donc, ça s'est reflété dans l'Église. Ces tensions qui existaient dans la société, parce que c'est pas né dans l'Église, ça existait dans la société. Les rabbins, par exemple, juifs, traitaient les hellénistes différemment. Il y avait un regard parce qu'ils disaient, eux autres, il y a des imperfections. Ils ne sont pas cochères. Tandis que les Hébreux, eux autres, qui ont été élevés dans la religion judaïque et qui sont pas teintés de la culture grecque, eux autres sont plus purs, sont plus près de Dieu dans un sens et tout ça. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils avaient cette attitude-là. Donc, ça s'est transposé dans l'Église. Alors, tous ces facteurs semblent expliquer pourquoi les tensions surgissent dans l'Église. D'une part, il y a les hellénistes qui étaient mécontents, et d'autre part, il y a les Hébreux pure laine qui étaient méprisants. Cette dynamique pouvait facilement diviser l'Église. Ça aurait pu causer tout un problème et là, briser l'œuvre de Dieu, drette-la en partant. Et là, Dieu aurait composé avec, naturellement, mais ça aurait été très malheureux pour l'Évangile. Alors, heureusement que les apôtres n'ont pas fait la sourde oreille. Et ça, c'est vraiment, on voit des hommes remplis de l'Esprit. Hein? Des hommes qui étaient à l'écoute de Dieu. Et des hommes qui n'ont pas agi d'une manière trop précipitée. C'est ceux ici, on le voit pas, là, cette réflexion-là. Mais c'est ceux et certains qui se sont consultés entre eux. C'est ceux et certains qui ont pris du temps pour réfléchir, pour prendre le plus d'informations possible, voir la véracité de ce qui se passait. Et c'est ceux et certains qui ont pris du temps pour prier. Ils ont pris du temps pour sonder les Écritures. Ils ont pris du temps pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu tu veux faire dans cette situation-là. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est honorable? Qu'est-ce qui va refléter l'Évangile de Jésus-Christ? Alors, comment est-ce qu'on doit traiter des plaintes? Vous savez, on a une petite boîte qu'on a mise en arrière. Là. C'est marqué dessus « suggestion » et « question ». OK? Donc, à l'intérieur de ça, naturellement, il peut y avoir des plaintes dans ce sens-là qui soient mises à l'intérieur. Et c'est parfait. Aucun problème. OK? S'il y a des choses que vous voyez qui devraient changer, des injustices justement qui sont faites ou des choses qui fonctionnent pas comme il faut, des choses qui semblent pas répondre à ce que la parole de Dieu enseigne et tout ça. Là, c'est le temps de mettre ça dedans. C'est une suggestion que quelqu'un nous a faite. On a dit oui, c'est une très bonne idée, puis on va la mettre dedans. Puis s'il y a des choses qu'on peut traiter lors de la réunion annuelle des membres, on va le faire. Dans le fond, c'est une occasion de rentrer en contact les uns avec les autres. Et je peux vous dire, là, on en entend des choses. Hein? On entend des choses quand on est dans le leadership. On entend des choses. Et moi, j'ai déjà dit même à une personne à un moment donné qui, disons, m'apportait souvent des points négatifs. Je lui ai dit à un moment donné, j'ai dit, écoute, devant Dieu, là, je vais te dire quelque chose. Tu es une grande bénédiction pour moi. Tu n'es pas toujours facile à gérer, mais tu es une grande bénédiction pour moi. Parce que grâce à toi, le Seigneur m'a sensibilisé à beaucoup de choses dans l'Église qui devaient changer ou des choses qu'on devait faire différemment. Et le Seigneur s'est servi de toi pour me sensibiliser à ça. Et ça, c'est merveilleux. Comprenez? On a toute notre place dans l'Église. Des fois, il y a des choses qui nous rentrent dedans, il y a des choses qui nous touchent. Puis nous, des fois, on les voit pas, ces choses-là, mais vous, vous les vivez. Et là, si vous nous les communiquez, bien là, on peut interagir ensemble et travailler ensemble. Donc, voici un peu ce que les apôtres ont fait dans la façon qu'ils ont traité les murmures et les plaintes qui leur ont été apportées par les hellénistes. Ils ont premièrement, je crois, reconnu la légitimité du problème, peu importe comment elle était communiquée. OK? Des fois, quelque chose peut être communiqué avec passion. Puis des fois, il y a des mots qui sont sortis puis qui dépassent ce que la personne voulait vraiment dire. Mais nous, ce qu'il faut faire, quand on entend ça, que ça vienne dans votre situation de tous les jours, dans votre vie de couple, ainsi de suite, et nous, comme pasteurs, comme dirigeants dans l'Église, c'est de dire, OK, y a-tu quelque chose de légitime dans ce qui vient d'être communiqué? C'est-tu vrai, ça, ce qu'il vient de nous dire? Peut-être pas tout ce qui a été dit autour, puis les mots qui ont été employés, mais y a-tu de quoi de fondé là-dedans? S'il y a quelque chose de légitime, il faut tenir ce qui est légitime. Il faut reconnaître le problème pour ce qu'il est. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut attaquer le problème, puis pas la personne. Il faut remercier la personne. Mais après ça, dire, il y a un problème, il est réel le problème, bien, on va faire de quoi sur le problème? Moi, je vous avais déjà dit quand j'étais arrivé ici au début, j'ai dit, moi, je veux faire partie de la solution, je veux pas faire partie du problème. Et c'est toujours la question que je me pose. Comment je peux faire partie de la solution? Fais attention à toi, Benoît, fais attention à ta réaction, fais attention à ton caractère qui, des fois, peut être pas toujours une bénédiction. Prends le temps, regarde, écoute, cherche ma face, puis regarde s'il y a quelque chose dans ça. Puis maintenant, fais quelque chose pour régler la situation. Voyez? Et ça, c'est un élément important. On veut régler le problème, et c'est le problème qu'on regarde dans les yeux et qu'on essaie de changer. Et finalement, on trouve une solution sans créer un autre problème. Autrement dit, il faut trouver une bonne solution. Puis c'est quoi une bonne solution? Une bonne solution, c'est, premièrement, ça respecte les priorités de Dieu. Ça respecte la parole de Dieu. Comprenez? Et deuxièmement, ça répond vraiment aux besoins, et ça répond aux besoins d'une manière qui ne sera pas en train de se répéter constamment. OK? Dans le sens que le problème ne ressurgira pas constamment. On a vraiment bien répondu au problème parce qu'on a trouvé une bonne solution et ça fonctionne après ça, puis on peut passer à autre chose. Parce que c'est ça le défi, vous comprenez? Si on est étiqueté sur le problème, sur le même problème pendant des années, imaginez-vous là comment de temps qu'on perd à revenir sur le même problème constamment, parce qu'il va revenir là. Si on ne trouve pas une solution, il va revenir. Il va revenir. S'ils n'avaient pas trouvé une solution pour clarifier l'injustice qui se faisait dans la distribution, ils seraient revenus et les tensions auraient simplement augmenté. Donc, ça, c'était une des choses qu'ils ont faites. Et ça, c'est fantastique. Vous savez, il y a un homme que j'aime beaucoup qui a développé un grand ministère sur la prière. Il s'appelle Daniel Anderson. Il a dit ceci. Quand vous définissez vos « oui », il est beaucoup plus facile de dire « non » à tout ce que vous devriez dire « non ». Mais il dit la plupart des personnes, puis là, la plupart des pasteurs ont malheureusement pas pris le temps de définir leur « oui ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui est absolument fondamental pour moi? Ça, c'est oui pour moi. Ça, c'est ce que je vais faire. C'est les priorités qui sont dans ma vie. Ça, c'est les choses que je sais que Dieu veut que je fasse. Et je devrais m'en tenir à ces choses-là sans les négliger. Fait qu'après ça, il y aurait d'autres situations. Non. Non. Ah, ça serait le fun, ça serait bon. Je pourrais être sur un comité, je pourrais être sur 4 comités, je pourrais être sur 8 comités. Comprenez? Mais si je suis sur 8 comités, ça va aller à l'encontre de ce que Dieu m'a demandé de faire et je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je dois m'en tenir à mon plan de match et à ce que Dieu m'a montré d'une façon fondamentale. Par exemple, que penseriez-vous de quelqu'un qui se dit soucieux de son alimentation en train de manger dans un restaurant fast-food? Qu'est-ce que vous vous dites? Hein? Une fois n'est pas coutume. La personne a dit, moi, l'alimentation, c'est bien, bien important. C'est une priorité. Manger sainement, c'est prioritaire. Puis elle est dans un fast-food. Vous vous dites quoi? Hein? À changer de priorité. Elle ne respecte pas ses priorités. C'est ça? Mais là, vous êtes trop sévère. Vous êtes trop sévère. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est là pour ses enfants. Mais sérieusement, si quelqu'un a une priorité, là, je vais revenir à, mettons, la forme physique, OK? Dis-moi, là, la forme physique, c'est très important, d'être en forme, d'être en shape, d'avoir... Alors, qu'est-ce que vous allez regarder pour dire, cette personne-là, c'est-tu vraiment vrai ce qu'elle dit ou si c'est pas vrai? Comment ça devrait se refléter normalement une priorité dans la vie de quelqu'un? Parce qu'une priorité, c'est quelque chose qui est prioritaire. Okay? Ça veut dire que c'est important. Et si c'est important, ça veut dire que c'est prioritaire. Donc, je vais regarder quoi? Il y a au moins 2 choses que je vais regarder. Je vais regarder l'emploi de son temps. OK? Si quelqu'un est vraiment en train de dire, moi, là, ça, pour moi, c'est important, je vais mettre du temps là-dedans. Normalement, c'est comme ça. C'est pas vrai? C'est normal. Puis la 2e chose que je vais regarder, c'est quoi? Qu'est-ce qui démontre que ça, c'est vraiment important? Il y a mon temps? Oui, ça va être continu, mais ça va aller avec mon temps. OK, il va avoir comme il va persévérer. Ça, c'est bon, oui, c'est vrai. Il va persévérer. Mais, il va être conséquent. Mais ici, ce que je veux dire, dans le fond, puis là, je vais vous le donner, là, c'est qu'il va mettre aussi l'argent qu'il a besoin de mettre là-dedans. Vous comprenez? Si c'est vraiment important, puis que là, il y a des frais. Hein? Autrement dit, je suis prêt à payer le prix. Autant au niveau de mon temps qu'au niveau de s'il y a de l'argent à investir, je vais l'investir dans ça parce que c'est important. Maintenant, vous venez de comprendre, madame, pourquoi votre mari ne vous a pas acheté un lave-vaisselle encore. OK? Parce que ce n'est pas lui qui fait la vaisselle. Alors, négociez là-dessus, commencez à lui faire la vaisselle, vous allez voir, ça ne sera pas long, le lave-vaisselle va rentrer dans la maison. Maintenant, quelle était la priorité ici des apôtres? Qu'est-ce qui était pour eux là non négociable? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'Église face à la situation qui leur était apportée, qui était un vrai problème? Puis là, ils voulaient avoir une vraie solution. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'Église? Il y a 2 choses que quand on s'est réunis, quand on s'est arrêté, quand on a regardé l'appel que Dieu nous a donné, là où on est présentement, là où ce qu'on est situé en tant que les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ, qu'on a passé 3 ans avec lui, la mission qu'il nous a confiée, maintenant là où on est par rapport à l'Église et ce que Dieu est en train de faire et la croissance qu'il est en train de faire, qu'il est en train de bâtir son Église et Pierre étant le leader ici du groupe à lequel Jésus avait remis les clés du royaume. Et on dit, il y a 2 choses qui pour nous est absolument non négociable. Et ces 2 choses-là, c'est 2 ministères qu'on a. Et qu'on est conscient que c'est nous qui devons le faire. C'est le ministère de la parole et le ministère de la prière. Vous comprenez? Et pour moi, là, Le ministère de la parole et le ministère de la prière sont les deux poumons de l'Église. Comprenez-vous? Là, on peut courir à gauche, à droite, on peut faire plein de choses. On peut se démener, tout ça. Mais si dans l'Église locale, et ici je dirais, si dans ma vie personnelle et si dans votre vie personnelle, la parole de Dieu et la prière ne sont pas vos deux poumons, ne sont pas ce qui vous fait fonctionner, vous avez un problème. Et c'est souvent la situation qui arrive dans les églises, autant que dans nos vies personnelles, c'est que si on néglige la parole de Dieu et si on néglige la prière d'une manière ou d'une autre pour s'occuper de plein de choses, de plein de bonnes choses, là, on n'a pas trouvé une bonne solution. Loin de là. Là, on se tire dans le pied. Et là, on va freiner l'œuvre de Dieu dans nos vies et à travers nos vies. Et ça, c'est absolument essentiel. Vous savez, pour nous, pour l'équipe pastorale, par exemple, pour nous, de mettre du sérieux au niveau de la parole de Dieu, au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu, au niveau de la préparation qu'on peut consacrer à ça dans nos vies, autant en préparation pour le ministère que dans le ministère, la parole de Dieu et la prière sont les deux éléments absolument essentiels. Et si on néglige ça, ça va avoir des répercussions terribles. J'ai parlé un jour à un pasteur. Il y avait plusieurs années d'expérience dans le ministère. Fait que par curiosité, j'ai dit, comment tu fais ça, toi, ta préparation pour tes enseignements, puis le dimanche matin, tout ça? Fait que, du moins, c'est pas compliqué. Pas en tout. Ah non, c'est pas compliqué. OK, explique-moi ça. Du moins, il dit, le samedi soir, je prends une couple d'heures, puis des fois, le dimanche matin, pour finir ça, puis c'est comme ça que je me prépare. J'ai dit, t'es pas sérieux? Tu fais ça régulièrement? Et du moins, c'est comme ça que tu as fonctionné. Non. Ça, vous savez, il faut appeler la police. C'est criminel. C'est criminel que de traiter la parole de Dieu de cette façon-là. La parole de Dieu, vous savez, c'est la chose la plus importante. De venir et de dire à quelqu'un, voici ce que Dieu dit, vous êtes bien mieux de vous assurer que ce que vous lui dites, c'est vraiment ce que Dieu dit. On a l'exemple de Job et ses amis, puis Dieu a dit, moi je vais leur régler le compte parce qu'ils n'ont pas parlé de moi avec droiture. Vous savez, c'est sérieux là. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. De ne prononcer pas le nom du Seigneur en vain. Il y a des choses que Dieu dit, garde bien, là, c'est ma réputation, c'était en train de refléter ce que moi j'ai dit. C'est comme si vous disiez quelque chose à quelqu'un, puis là, la personne déforme tout ce que vous avez dit. Allez-vous aimer ça? C'est comme le contraire même de ce que vous avez dit. Allez-vous aimer ça? Absolument pas. Bien, Dieu, il n'est pas pire que ça, au contraire même. Donc, la parole de Dieu, c'est sérieux. La parole de Dieu, c'est fondamental, c'est important. Ça a le pouvoir de la vie comme ça a le pouvoir de la mort. Et c'est absolument essentiel que j'y consacre le sérieux dans ma vie. Autant quand je la lis, autant quand je la cite, et que je la cite d'une façon qui est intègre, quand je dis « voici ce que Dieu dit », c'est ce que Dieu dit. Donc, ça, c'était prioritaire pour les apôtres, de mettre la parole de Dieu et la prière au centre de leur vie et au centre de leur ministère. Est-ce que c'est la même chose pour votre vie personnelle? Si vous regardez votre emploi du temps, est-ce que la parole fait partie de votre agenda? Sinon, pouvez-vous dire que c'est vraiment important dans votre vie? S'il y a très peu de temps qui est consacré à la parole de Dieu? Vous savez, les priorités, ça reflète des valeurs. Et c'est ça que Dieu regarde. Est-ce que sa parole est vraiment importante dans nos vies? Et est-ce que la prière, le fait de chercher la face de Dieu est vraiment important? Parce que derrière ça, c'est Dieu qui est le point commun. C'est Dieu qu'on trouve à travers sa parole et c'est Dieu qu'on recherche aussi à travers la prière. Et celui qui honore Dieu, Dieu va aussi l'honorer. Je vais vous inviter à vous lever. On va terminer avec cette prière. On va prier ensemble ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, Nous nous approchons de toi ce matin parce que nous reconnaissons que tu es vivant. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es présent avec nous ce matin. Et nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Et ce qu'on voit ce matin dans ta parole, c'est que le ministère de la prière et de ta parole sont des priorités qui ne devraient pas être négociables dans nos vies, qui ne devraient pas être négociables dans nos ministères, dans l'Église ici. Ô Seigneur, notre Dieu, tu sais comment nous sommes sollicités de partout, comment toutes sortes de choses peuvent attirer notre attention et comment la vitesse des fois de la vie peut nous arracher à ce qu'on prenne le temps nécessaire d'ouvrir ta parole et de la prendre au sérieux en sondant tes Écritures, en y prenant plaisir, en trouvant en elle une joie et une nourriture, un guide. Et que, Seigneur, aussi, on puisse désirer consacrer des temps dans nos journées pour chercher ta face, pour prier et pour communier, Seigneur, avec toi. Ô Seigneur, nous sommes tellement coupables et toi, tu es tellement patient envers nous. Seigneur, merci de ta patience. Ô, renoue en nous un cœur mieux disposé, un cœur qui a soif de toi, Seigneur. Un cœur qui soupire après toi et qui goûte à toi, Seigneur. Et qu'on puisse devenir dépendant de ce temps avec toi. Que si on n'a pas ce temps avec toi, Seigneur, ça nous manque. Que c'est comme il nous manque des forces, comme si on n'avait pas pris un repas ou deux repas ou trois repas. Puis qu'à un moment donné, notre corps crie parce qu'il a faim, il a soif, il est en manque. Que notre âme, Seigneur, soit de cette même vigueur et de cette même nature, ô Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi à nous, ramène-nous à de meilleures dispositions. Donne-nous en 2009 de consacrer plus de temps à ta parole et à la prière. Seigneur, nous nous tournons vers toi, nous te demandons ta grâce pour nous soutenir, pour nous aider et qu'on puisse, Seigneur, progresser pour la gloire de ton nom. Et que cela ait des répercussions dans nos vies, des répercussions dans nos familles, des répercussions dans notre travail, des répercussions dans notre désir de parler de toi aux gens qui sont autour de nous, des répercussions dans le désir de consacrer un peu plus de temps pour toi, pour te servir et s'impliquer, s'engager, Seigneur, pour la gloire de ton nom, parce qu'on a été créé par toi et on a été créé pour toi et on a soif de toi et on aime, Seigneur, être avec toi. On aime passer du temps avec toi et notre âme ne peut pas s'en passer. Ô Seigneur notre Dieu, fais-nous cette grâce de grandir et de rayonner autour de nous. Et que notre Église en soit bénie et qu'on ait des répercussions comme ça dans notre société pour que des gens voient qu'une relation avec Jésus-Christ amène toute une différence dans la vie d'une personne. Merci encore Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce temps qu'on a consacré ce matin. Et béni sois-tu, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Amen.